Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizée Lichty.
Lorsque je suis arrivée devant le bâtiment qui abrite la société de mon invité, j'ai été surprise. D'abord parce que cet immeuble qui regroupe des sociétés et des start-up était fermé à clé, puis par son atmosphère assez spéciale. Je sonne à l'interphone et la secrétaire me permet d'entrer. L'ambiance est froide, presque hostile. J'emprunte les escaliers, direction le deuxième étage. Des couloirs blanc-beige s'offrent à moi. À un moment donné, je me suis demandé si je ne me trouvais pas dans un hôpital. Puis, j'arrive devant la porte d'Alpe Laser. J'étais au bon endroit. On me dit de patienter dans la salle de conférence dans laquelle un petit chauffage électrique me propulsait de l'air chaud. Quelques minutes plus tard, mon invité arrive tout sourire. Il a 53 ans, est attiré par les sciences de manière générale. Dans son temps libre, il s'adonne à l'improvisation théâtrale. Et si on lui demande une chose qu'il apprécie dans la vie, il nous répond les clowns. Antoine Muller, bonsoir.
Bonsoir.
Votre entreprise Alpe Laser existe depuis combien de temps ?
La société a été fondée en 98, donc on arrive à notre 20e anniversaire.
Pourquoi avoir décidé de la créer ?
J'étais dans l'expectative de continuer une carrière académique. J'avais pas mal de doutes existentiels de faire quelque chose d'utile. Et le laser à cascade ressemblait à quelque chose qui pouvait être utile à beaucoup de gens, à beaucoup d'applications, et qui en même temps pouvait représenter un avenir commercial, un job.
Dans le nom de votre société, il y a laser, on comprend déjà un peu pourquoi. Mais alors, que vient faire le mot Alpe là-dedans ?
Alors, la société est un essaimage de ce qui était l'Institut de physique et ce bâtiment à côté de l'Église Rouge qui a une vue sur le lac et sur les Alpes. Et après multiples essais, on est arrivé sur Alpe Laser et ça a été l'adhésion générale. D'un autre côté, on a découvert après coup qu'en fait, c'était juste le même acronyme, mais en français, que laser, à savoir que ça fait amplificateur de lumière par émission stimulée.
Donc finalement, c'était un bon choix.
C'est un bon choix, oui.
Est-ce que, vous venez de le dire, vous étiez d'abord basé à Neuchâtel, vous avez ensuite déménagé, pourquoi ?
Alors, on était au-dessus, en face du théâtre du Passage. Les locaux étaient un peu petits, sur deux étages, il fallait descendre trois étages, en remonter un pour aller de l'administration au labo, c'était un peu compliqué. Les perspectives de la société allaient grandissant et InnoParc avait ses nouveaux locaux où il s'occupait de la technique. On s'est dit, ça c'est un bon deal, on y va.
Alors justement, vous avez décidé d'intégrer l'InnoParc. Est-ce que ça vous apporte certains avantages ?
L'air comprimé, la climatisation... quand on arrive à se mettre d'accord sur comment elle doit fonctionner, le réseau Internet, et puis disons des locaux qui sont jolis, qui ont la forme qu'il nous faut, et on n'a plus besoin de s'occuper des petites choses de tous les jours.
Donc il y a aussi d'autres sociétés, des start-up à l'InnoParc. Est-ce que vous avez des contacts avec ces autres sociétés ou pas du tout ?
Malheureusement, assez peu. Ce serait l'occasion de faire un apéro de début d'année ou quelque chose comme ça pour essayer de voir si on n'aurait pas quelques synergies en plus.
Bah, l'idée est lancée apparemment, s'ils nous écoutent. Parmi les 22 employés qui travaillent chez Alpe Laser, est-ce qu'il y a uniquement des spécialistes en physique ?
J'ai une assistante qui vient de la restauration. En fait, tous les gens sont des techniciens.
Vous, Antoine Muller, quel est votre parcours professionnel ?
J'ai fait une thèse en physique à l'Université de Genève, une spécialisation dans la cryptographie quantique. Et puis en fait, au travers d'un postdoc au NIST, au Bureau des standards américains, pendant cette année-là, en fait, j'ai discuté avec Jérôme Fest, qui est l'inventeur du laser à cascade. Et c'est là qu'on a décidé de commencer l'entreprise. Comme il s'installait à Neuchâtel, j'ai déménagé à Neuchâtel et puis on a commencé ça en 1998.
Ça veut dire que votre parcours professionnel est basé uniquement sur la physique ?
Oui. Oui, j'ai livré la Suisse pendant un temps, mais ça a duré 3 jours.
Ah seulement ?
Oui.
Votre job au quotidien, c'est quoi, Antoine Muller ?
Principalement discuter avec des gens... essayer de peser un peu le pour et le contre entre certaines problématiques techniques, financières, l'intérêt des clients, l'intérêt de l'entreprise. C'est oui, pas de la gestion, disons. Aujourd'hui, je fais plus beaucoup de science. L'intérêt de la comprendre permet d'avoir une idée de ce qui se raconte, mais le travail technique est principalement fait par mes collègues.
Justement, d'un point de vue extérieur, quand on pense à la physique, à la chimie, on imagine tout de suite hein, des personnes en blouse blanche. Est-ce que il y a des personnes en blouse blanche dans votre entreprise ou est-ce que vos employés travaillent uniquement derrière des ordinateurs? Comment ça se passe?
Il nous arrive d'en déguiser en blouse blanche. On a travaillé pour la NASA et là, on a acheté des blouses blanches parce que c'était quelque chose qu'ils nous avaient demandé. Mais en général, on ne le fait pas. On est plutôt habillé normalement et on travaille à moitié derrière des ordinateurs et puis un petit peu au labo, beaucoup au labo.
On va entrer dans le vif du sujet, du laser. Et moi, lorsque l'on parle de laser, je pense directement au laser qui balaye le code-barre d'un produit aux caisses d'un supermarché ou même encore au laser de Star Wars. Est-ce que c'est ça que vous fabriquez?
Bon, les lasers de Star Wars, il y a encore un peu de boulot pour y arriver.
Mais ça fait rêver.
Ça fait rêver, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est un peu le même genre de laser que ceux des supermarchés, dans le sens où ce sont des lasers semi-conducteurs et effectivement, ils émettent de la lumière, sauf que le laser de supermarché est rouge. Nos lasers sont avec des fréquences un peu plus faibles, donc on est invisible à l'œil humain, mais ça reste de la lumière laser.
Si je vous demande de décrire qu'est-ce qu'un laser d'une manière très simple et très générale, qu'est-ce que vous me répondez ?
Alors, un laser, c'est une source de lumière cohérente. C'est en général un oscillateur pour les photons qui va permettre de produire une lumière qui est en général centrée autour d'une fréquence dans un seul mode, le mode du guide d'onde. On peut y en avoir des fois plusieurs, mais disons, principalement, c'est une lumière qui est cohérente et qui est extrêmement brillante comparativement à toutes les lumières qu'on peut trouver naturellement dans la nature, comme la lumière du soleil. Un laser est facilement 1 million de fois plus brillant.
Ça veut dire qu'un laser, on ne peut pas le regarder dans les yeux? Enfin, on ne peut pas le regarder avec nos yeux?
On peut le regarder, il ne faut pas qu'il soit trop puissant. Mais effectivement, tous les lasers qui sont utilisés, par exemple, dans l'industrie du travail des matériaux, sont des lasers que même vos mains ne supporteraient pas.
Ça veut dire que lorsque vous travaillez, vos employés travaillent sur ces lasers, ils mettent par exemple des lunettes?
Alors, maintenant, on développe des lasers de puissance depuis quelques années. Et effectivement, on a dû prendre des mesures de sécurité parce qu'on a des lasers qui atteignent le watt, voire même plus d'un watt. Et ça peut être potentiellement dangereux pour la peau. Pour les lasers de quelques dizaines de milliwatts qu'on produit pour la spectroscopie, ces lasers-là ne nécessitent pas de précautions particulières. En plus, dans la gamme de longueur d'onde, l'eau absorbe très très vite. Donc même si la lumière atteignait votre œil, c'est l'eau en surface qui serait éventuellement évaporée, mais la rétine ne verrait jamais la lumière. Ce qui est extrêmement dangereux avec un laser visible ou proche infrarouge où la lumière va être focalisée au fond de l'œil, et là vous allez littéralement faire des trous dans la rétine, et ça c'est rédhibitoire.
On a parlé des lasers de manière générale, parlons maintenant d'Alp Laser, votre société, vous êtes spécialisé dans quel type de laser?
Alors on fait des lasers à cascade quantique. Ce sont des lasers qui émettent dans une gamme de longueur d'onde qu'on appelle le moyen infrarouge, qui va pour les chimistes, de 2 à 20 microns. Les lasers émettent de 4 à 16 microns, grosso modo. Et c'est une gamme de longueur d'onde dans laquelle l'intérêt primordial est que beaucoup de molécules ont des absorptions qui sont spécifiques et très, très intenses, qui font que vous pouvez faire des mesures avec une très, très grande sensibilité. Typiquement, le CO2 a 60 000 fois plus d'absorption dans le moyen infrarouge que dans le proche infrarouge. Donc vous pouvez descendre à des sensibilités de l'ordre de la partie par milliard, voire la partie par billion, facilement. Enfin, facilement. C'est un peu l'extrême qu'on peut atteindre, mais ce qui peut être très utile pour des mesures, par exemple de la chimie de l'atmosphère ou toutes sortes de techniques nécessitant de la grande pureté.
Ça veut dire que les lasers que vous fabriquez servent à mesurer des choses?
Exact. La majorité des gens vont... typiquement, nous avons des clients qui vont mesurer les gaz d'échappement de gros combusteurs pour optimiser la qualité de la combustion. Si vous avez par exemple un orage qui arrive, vous avez la pression atmosphérique qui va baisser, vous avez l'humidité qui va augmenter, ça va changer la stoichiométrie de la combustion et vous risquez de soit d'injecter trop d'air à l'intérieur de votre combusteur, soit d'injecter trop peu d'air, auquel cas, dans le premier cas, vous allez chauffer de l'air pour rien, dans le deuxième cas, vous risquez de faire exploser la cheminée. Donc si vous réglez ça proprement, vous pouvez gagner 1% sur $1 million de carburant que vous pouvez utiliser dans un très gros combusteur, ben, ça peut avoir son intérêt.
Là, on parle de mesure de gaz. Est-ce que ça peut mesurer aussi autre chose ?
Alors, on a des clients qui mesurent des liquides. Typiquement, l'huile dans le pétrole, plutôt le pétrole dans l'eau. Et typiquement, sur les stations de pompage offshore, vous avez l'essentiel en fait, de la station de pompage va consister à séparer l'eau du pétrole. Et si vous séparez mal l'eau du pétrole, ben vous allez rejeter de l'eau qui contient encore du pétrole dans la mer. Donc la législation impose de mesurer ce genre de choses et ça peut être fait à l'aide d'un laser à cascade.
Dans l'actualité, on parle de dopage en cyclisme. Est-ce que vous pouvez aussi mesurer le dopage des athlètes, par exemple ?
Alors, on a des clients qui ont travaillé là-dessus, effectivement. Je crois que c'est le N2O, quelque chose comme ça, dans la respiration, qui est un marqueur du dopage. Et donc, il y a des Allemands qui travaillent sur justement des diagnostics un peu systématiques qu'on puisse faire pour voir dans quelle mesure la physiologie de quelqu'un a été modifiée par une substance.
Est-ce que les lasers, c'est comme les iPhones par exemple, ils évoluent technologiquement au fil des années ?
Oui. Quand on a commencé la société, le laser à cascade fonctionnait à température ambiante, en mode pulsé, et aujourd'hui, il fonctionne jusqu'à plus de 100 degrés, en continu, avec des puissances très importantes, et ça c'est le fruit de travail continu, de développement, au travers de travaux universitaires avec qui on collabore et fait au sein d'Alplaser.
Quelle est la durée de vie de cette technologie des lasers ?
Vous voulez dire la durée de vie d'un laser lui-même ?
Oui.
Les derniers chiffres qui ont été publiés donnent un temps moyen de 97 ans. Mais c'est encore fait sur un très petit ensemble de dispositifs. Cela dit, on espère que ça soit une technologie qui soit assez durable. Ce qu'on voit est que c'est assez durable.
Chez Alplaser, il y a des laboratoires et un atelier de fabrication. C'est là qu'on vous retrouve derrière une machine et cette machine, c'est une cliveuse.
Sortie de boîte.
On a un microscope pour regarder parce qu'il faut toujours s'aligner sur le matériau. Et l'idée, ça va être avec le diamant qui est là-dessous, on va aller marquer un petit trait, en fait comme les vitriers vont faire sur une vitre. Là, on va le faire de manière très précise sur un petit millimètre du bord de notre wafer. Et ensuite, on va le sortir de là et venir appuyer bien précisément au bon endroit avec cette lame depuis derrière. Comme ça va créer une tension. Et cette tension va faire que la petite marque qu'on a fait va casser le matériau et ça va nous permettre de séparer les chips les uns des autres. Parce qu'on ne peut pas vraiment les scier parce qu'on a besoin d'avoir des facettes qui soient plates à l'atome près. Une fois qu'on a clivé le matériel, on va venir sur ce four ici et là on va placer le chip laser sur le support en nitrure d'aluminium et on va procéder à une soudure en envoyant une vague de chaleur. Et puis une fois qu'on a fait ceci ici, on va passer
de l'autre côté
où on va utiliser, ben, il y a justement quelqu'un qui est en train de l'utiliser, on pourra voir comment ça se passe. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir contacter le dessus du laser avec un fil d'or. Et donc là, l'idée, c'est qu'on commence par fabriquer une boule. On a le fil d'or dépasse au bout du capillaire. On vient à côté avec une pièce de métal qui va permettre de lancer un arc électrique dessus, faire fondre l'or pour qu'il fasse une petite boule à l'extrémité du capillaire. Ensuite, on peut viser sur le chip, aller appuyer cette boule sur le contact doré supérieur. Là, on envoie un petit coup d'ultrason, de chaleur. Ensuite, et on appuie, ça permet de faire une soudure. Et on déroule le fil Et on va s'appuyer sur le contact de côté. De nouveau, un petit coup d'appui, petit coup d'ultrason, petit coup de chaleur. Et puis ça fait le contact et ça permet d'alimenter électriquement le laser.
Sortie de boîte.
Et ce reportage a été réalisé par Joël Picromain. On a parlé de la cliveuse, de la bondeuse, Antoine Muller, cette machine qui nous aide à découper les futures pièces des lasers. Ensuite, ça se passe comment ?
Alors, une fois que les lasers sont montés sur des supports en céramique, on va les tester. On va regarder quelle est la quantité de lumière qu'on arrive à en extraire et on va regarder à quelle longueur d'onde, quelle est la couleur, si on veut, de la lumière qu'on va pouvoir obtenir en fonction de la température à laquelle se trouve le laser et du courant qu'on injecte à l'intérieur.
Ensuite, est-ce que vous fabriquez tout de A à Z ou est-ce que vous avez des fournisseurs ?
Non, alors, on fait sur place uniquement le design en amont du laser et de son processus de fabrication. Et puis, une fois qu'on obtient le matériel processé, on fait les opérations qu'on a entendues dans le reportage, le montage, et puis le test final avant d'encapsuler le dispositif dans son boîtier définitif.
Votre choix de sous-traiter, c'est parce que les étapes sont trop compliquées ou c'est parce qu'elles requièrent des compétences que vous n'avez pas chez Alplaser ?
Non, alors elles requièrent surtout des équipements qui sont particulièrement chers à utiliser et à entretenir et à acheter. Et au départ, on avait choisi d'essayer de disposer de toute la chaîne de fabrication, mais on s'est assez vite rendu compte que c'était vraiment difficile de le maintenir d'un côté, et d'un autre côté que le paysage industriel avait pas mal changé entre le moment où on a commencé, où il n'y avait vraiment aucune capacité disponible, à environ 2010, quand on a changé notre fusil d'épaule, où là, en fait, on trouvait des capacités autant pour la croissance que pour les process semi-conducteurs.
Cette semaine, la chronique horlogère fait honneur non pas aux montres, mais au temps qui passe. Marie-Lise Saillard clôt l'année en chanson.
Pile à l'heure.
Vous avez l'heure, s'il vous plaît.
Le temps, c'est une notion essentielle dans notre vie. Notion qui tient aussi une place importante dans les chansons, où il est question de presque chaque minute qui rythme une journée. Le matin, il y a ceux qui rentrent, ceux qui ne sont pas encore couchés ou ceux qui n'arrivent pas à dormir.
5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé.
Il y a aussi ceux qui ne dorment pas pour d'autres raisons.
Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin, aime-moi encore au moins.
Et puis ceux qui aimeraient prolonger un instant, un moment, une rencontre.
Je donnerais n'importe quoi pour une minute de plus.
Et parfois, ceux qui n'ont pas encore dormi croisent ceux qui se lèvent déjà.
Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
La matinée se passe et à mi-journée, il y a des rendez-vous importants.
C'est l'heure de l'apéro.
Alors boire, c'est bien, mais il faut aussi penser à manger un peu.
Tous les midis à la cantine, ils mangent du poulet aux hormones.
Et parfois, à la mi-journée, des drames se nouent.
La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis, où tu m'as dit je vais partir.
Il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas.
Le jour et l'heure où tout a basculé.
Mais pour certains, il est vrai que l'heure importe peu.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tandis que d'autres travaillent avec les yeux rivés sur la pendule.
L'heure de la sortie, tout au long de l'année.
Parce qu'à la fin de la journée, comme à la mi-journée, d'ailleurs, il y a encore un rendez-vous important.
C'est l'apéro, c'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano, c'est l'heure de te proposer un bon mojito.
Et pour les esthètes aussi, la fin de journée, ça compte.
C'est l'heure que je préfère, on l'appelle l'heure bleue.
Nous arrivons dans une période de l'année où l'heure qu'il est essentielle. à Noël. C'est le cas pour ceux qui sont croyants.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
Et à Noël, bien sûr, le temps qui passe est une notion cruciale pour les enfants impatients qui doivent attendre le lever du jour pour découvrir leurs cadeaux.
Il me tarde tant que le jour se lève.
Une semaine plus tard, c'est encore pire. On a tous une occasion en or pour faire les fous et oublier son lit. À la Saint-Sylvestre, nous voilà tous en train d'égrener les secondes.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nous faisons tous pareil en attendant le message universel. C'est d'ailleurs celui que je vous fais un petit peu en avance.
Bonne année 2018.
Pile à l'heure.
Et vous, Antoine Muller, est-ce que vous avez une résolution pour la nouvelle année pour votre entreprise Alplazer?
On va faire encore beaucoup mieux qu'avant. L'année prochaine sera probablement l'année où on va commencer à vendre en beaucoup plus grande quantité. Et ça va nous changer. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vendu des lasers pour des expériences, des travaux plutôt scientifiques en très petite quantité. Là, on a des clients qui commencent à s'intéresser à plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers de lasers. Ça sera pour l'année d'après.
Vous parlez de vos clients. Qui a besoin de cette technologie en Suisse?
En Suisse, pas grand monde. On fait entre 0 et 1% de notre chiffre d'affaires en Suisse.
Donc alors, vos clients, ils viennent d'où?
40% aux États-Unis, 40% en Europe, le reste en Chine.
Et puis c'est quoi principalement? C'est le domaine médical, c'est le high-tech, c'est des expériences, des universités?
Alors vous avez pas mal de gens qui font de la chimie de l'atmosphère, de l'environnement, des choses comme ça. Vous avez des intégrateurs de systèmes qui vont faire des systèmes de mesure, comme on le disait avant, par exemple pour du monitoring de combustion. On a des gens qui travaillent dans du monitoring, par exemple, de plasma, dans des systèmes dans l'industrie semi-conducteur. Vous avez des gens qui travaillent dans des systèmes, par exemple, de mesure de la respiration. On a un client qui fait un système de monitoring du foie, qui est capable de dire dans quelle mesure est-ce que le foie fonctionne.
C'est des domaines quand même assez particuliers, de niche. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de la concurrence?
Alors, oui, il y a une société au Japon qui fabrique des lasers aussi.
Donc pas dans la région en tout cas?
Dans la région, non. Non. La prochaine est à Würzburg, en Allemagne.
En Allemagne?
Oui.
Au Japon, en Allemagne?
En France, il y a une société parisienne.
Mais vous êtes vraiment peu de sociétés dans le monde ces lasers?
6 ou 7.
Pas beaucoup. Sortie de boîte s'achève ici. Merci beaucoup Antoine Muller d'être passé nous parler de votre entreprise et merci à vous de nous avoir suivis. L'émission économique prend des vacances. J'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Rendez-vous le 11 janvier, même heure, même endroit. Nous serons en compagnie d'un jeune entrepreneur qui a lancé son entreprise digitale. Excellente soirée et bonne fête de fin d'année.
Sortie de boîte.